Bienvenue dans la jungle des affaires, une émission mettant en lumière les humains derrière les entrepreneurs et les gestionnaires d'entreprise. Votre animateur est Jean Gauthier et ses invités vous offrent une vision unique sur les défis et les sacrifices liés à la poursuite du succès dans une entreprise. Alors préparez-vous à découvrir les humains en plein cœur de la jungle des affaires.
Salut la gang, encore une fois aujourd'hui, Jean Gauthier avec vous pour la prochaine heure dans la jungle des affaires. On va parler d'affaires. Ben oui, on va parler d'affaires, c'est bien sûr, mais on va parler aussi avec des humains. Hein? C'est ça,
ça
le but.
C'est le fun.
Ben oui, c'est ça le concept de l'émission, vous le savez, dans la jungle des affaires, 544e entrevue aujourd'hui.
Wow.
Ouais, vraiment. Merci à la gang aussi, merci à l'équipe Bronco Marketing et compagnie, toute la boys, les boys, je devrais dire, la boy. Pourtant, on prend pas de la boisson, on prend de la boisson non alcoolisée aujourd'hui. Noah. Notre ami Patrice Plante, Monsieur Cocktail, qui nous a laissé ça aujourd'hui. On le remercie beaucoup. Quel homme, soit dit en passant. J'ai découvert pourquoi il appelle ça Monsieur Cocktail. C'est tout qu'un monsieur. Vous irez découvrir ce monsieur-là sur le web, naturellement. Appelez Madame Google ou Monsieur Google. Je ne sais pas si c'est un monsieur ou madame. En tout cas, appelez-le et demandez-y c'est qui ça, Patrice Plante.
Il est non-genre.
Aujourd'hui, je suis bien accompagné. Ben oui, parce que là, j'ai des amis qui viennent me supporter comme cours. Animation, dans la co-animation, ben oui.
Hey, bonjour, Réza.
Bonjour, Caro.
Hey, je suis vraiment contente d'être avec vous.
Caroline, c'est le fun que tu sois avec nous autres parce qu'on va parler aussi un peu, ben on va en parler, c'est bien sûr, on va parler d'Aro.
Ah, ben super, moi je suis prête.
Ben voyons, pourquoi qu'on ne parlera pas de ça? T'es venu, tu t'es déplacé, t'es ici aujourd'hui avec nous, pourquoi qu'on ne parlera pas d'Aro artiste?
Ben ça va me faire plaisir.
La belle Caro du lac Beauport qui fait quoi? On le sait pas. Dis-nous tout ça, on veut tout savoir.
En rafale, ben mon nom est Caroline Bergeron.
Ah oui donc?
Je suis Aro artiste peintre. J'expose un petit peu partout dans le monde. 6 galeries d'art qui me représentent. J'ai ma propre galerie à Stoneham.
Faudrait que tu ailles faire une entrevue dans la jungle des affaires.
Ben, c'est déjà fait.
Ah oui?
Ah oh, oui, 533e.
Non, tu sais le chiffre en
ben,
plus,
ben oui,
c'est
je m'en
drôle.
Souviens, c'était vraiment plaisant.
Allez voir ça sur dans la jungle des affaires. Point ci, point ça. Il y a des gens des fois qui me demandent, c'est point CA, mais tiens, tu fais .com puis tu tombes dessus pareil.
Okay, c'est...
Tu vas sur la page LinkedIn, hein, dans la jungle des affaires. Tu vas sur Google dans la jungle des affaires, tu vas tomber n'importe où. Spotify, ben oui, vas-y donc. Apple, quand toi t'écoutes Apple, ben pas de problème, vas-y Apple. On est tous là, on est partout. Dans la jungle des affaires, même sur Facebook.
Oui.
Ben, je dis même, tu sais.
C'est pas mal important.
Oui, oui, ça vire beaucoup. Les gens pensent que Facebook, c'est commence à être out un peu, mais c'est pas vrai.
C'est la plateforme la plus utilisée
oui,
mondialement.
Encore, oui, encore. Il y a encore des bons scores. C'est sûr que TikTok ces affaires-là, ça pousse, mais en tout cas. Aujourd'hui, on se fait plaisir, Caro.
Hey, on a un invité extraordinaire.
Oui, tu as eu la chance de le connaître un petit peu pendant que moi, je récupérais mon retard. Parce que j'ai tant de retard à la première entrevue. Ça ne m'arrive pas souvent, mais là, c'est arrivé. Alors, merci beaucoup de la patience de l'équipe et de Patrice. Mais tu as eu la chance de connaître Adrien en arrière.
Hey oui, tellement. Puis, il y a vraiment un beau parcours. J'ai hâte qu'il puisse nous en parler là, de long en large.
Adrien, ton baril?
Oui,
est-ce que
ça.
Je le dis bien?
Exactement.
Oui, parce que des fois, tu dois te faire dire des... Hein, des...
Non, ça va,
oui,
ça va.
Ça
petite,
va.
Petite origine italienne, mais italienne via la Tunisie. Petite histoire géographique derrière.
Donc, parce qu'on pourrait dire ton baril.
Tombari,
oui, parce que c'est beau, là. Moi, j'aime ça l'italien.
Juste pour toi, Réjean, tu peux le prononcer comme ça.
Oh, puis j'aime son accent. Waouh, j'adore ça. Adrien, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation.
Merci à toi pour l'invitation. Puis merci, oui. Caro. Je suis très content qu'elle puisse co-animer aujourd'hui aussi.
Oui, à deux, tu vas voir, on va tout savoir. Nous autres, on est comme ça.
On a plein de questions.
Oui, dans la jungle des affaires.
Soyez pas trop méchant, par exemple.
Caro te disait... Non, on n'est pas méchant. On est gentil. Caro, tu disais tantôt que c'était ta première fois comme co-animatrice.
Première fois en co-animation, oui.
Mais ce ne sera pas la dernière.
Non, j'espère que non.
Ben non, OK. C'est bon, on a un deal. Ben, nous autres, on a plein de questions.
Oui.
Puis toi, tu en avais une tantôt. Tu as dit...
Ben, moi, je veux apprendre à connaître Adrien parce que... J'ai fait des recherches un petit peu sur lui avant l'enregistrement de l'émission.
T'as fait ça, toi?
Ah oui, puis il y a vraiment un parcours, moi, qui m'a impressionnée. Puis j'ai le goût, Adrien, avant qu'on tombe dans le monde des affaires, puis dans ton parcours professionnel, juste que tu nous parles un petit peu de t'es qui, tu viens d'où, ta famille, etc. Puis on va tomber après ça dans ton parcours professionnel.
Avec plaisir. Merci encore pour l'invitation. Je viens du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Non, c'est...
non, non.
Mais
ça aurait pu arriver.
Oui, mais peut-être pas avec cet accent.
Lola, dis-nous donc un Lola, là, moi.
Lola?
Oh, Lola!
Ah, je l'ai pas tant que ça.
On les aime.
Non, je suis franco-tunisien. À Montréal depuis 12 ans. Pour la petite histoire, je suis né à Paris, bah, personne n'est parfait. J'ai vécu jusqu'à mes 13 ans à Paris. À 13 ans, ma mère travaillait dans le milieu privé, puis enceinte de mon frère, elle passe le concours à 40 ans pour être professeure des écoles, donc institutrice, puis elle l'a à Paris et dans le sud de la France. Puis à 13 ans, elle dit « Ok, on va déménager dans le sud de la France, la qualité de vie est meilleure. » Fait qu'à 13 ans, je débarque à Aix-en-Provence. Très, très belle
ville. Toujours
dans
la langue française. Pas.
Tout à fait.
Oui.
Je fais mes études cégep, lycée, donc en France. Puis 2 ans d'université. Puis j'applique pour faire une licence initialement, donc un bac, puis je sais pas pourquoi, je suis pas pris là où je pensais être, puis j'avais quand même un bon dossier, je pense que c'est tombé aux oubliettes à quelque part, puis je me dis ok, bon bah qu'est-ce que je fais à partir de là, donc je trouve des petits jobs à droite à gauche, je travaille sur les marchés à Aix-en-Provence, je vends des fromages, des saucissons, je travaille au casino d'Aix aussi, casino donc où on joue des sous, mais aussi où il y a des spectacles, je suis à l'accueil, puis là... J'ai un ami avec qui j'ai étudié pendant mon diplôme d'avant. Donc, je fais un DUT en technique de commercialisation. C'est l'équivalent de 2 ans de bac au Québec, mettons. Mais tu sors avec un diplôme technologique.
Ça donne un diplôme même après 2 ans.
Ouais. Wow. C'est facile de même, la France, en soi.
c'est pour ça!
Non, puis là, j'ai un ami qui revient de Montréal, avec qui j'ai étudié dans ce diplôme-là. Puis il me dit, je reviens de Montréal, c'est malade. J'y retourne pour faire mon bac, dans le fond. Je suis en train de m'inscrire à l'UDEM en communication. Puis genre, OK. Moi, je voulais partir en Australie, faire 1 an. Je voulais vraiment partir de la France. J'avais une vraie volonté de partir
T'étais
de la France.
T'étais déjà venu au Canada, non?
Jamais avant.
Jamais?
Non.
Ah, OK.
Puis j'avais vraiment des choses qui me gossaient un petit peu en France, que je voulais fuir, tu sais, dans certaines mentalités, dans certaines façons de faire. Puis c'est pas mieux aujourd'hui, là, on pourra en reparler plus en longueur. Mais c'est ça, donc je me dis, je vais partir en Australie. Finalement, lui arrive avec cette idée du Canada. Puis je suis comme, ah, c'est peut-être un bon in-between, là, en bon français. Je vais partir à l'étranger, mais en même temps, je vais continuer mes études parce que j'avais quand même cette volonté-là. Puis je me disais, si je pars en Australie, je fais genre du fruit speaking dans un van. Là. Il y a peu de chances que je me rassoie sur les bancs de l'école. Puis je pense que j'ai encore des choses à faire là. Donc,
sur bord de la mer, vendre des coquillages animer les cours de surf.
Ouais, exactement.
Fait que j'arrive à Montréal en 2011 pour 1 an d'échange au niveau du bac à l'Université de Montréal. Je tombe en amour avec le Québec, avec Montréal, puis je décide de rester, je fais ma maîtrise, les choses s'enchaînent, puis après je pourrais vous parler plus en détail de la carrière
Québec, hein,
professionnelle. Mais c'est ça.
Est-ce que tu as rencontré quelqu'un ici?
Je suis en amour avec le Québec, okay, avec Montréal.
On est des petites bêtes attachantes.
Ah ben oui, bien sûr, Québécois. Bien sûr. Puis, est-ce que tu as des enfants? Est-ce que c'est inscrit à te demander ton âge?
Non, pas de... Je sais pas quel âge vous me donnez.
Hey, c'est une bonne question, mais t'es jeune.
Moi aussi, je le vois jeune. Parce que 2011, on est comme au chanteur masqué. Hein? Ils sont drôles.
Ouais,
hein?
Ça, c'est top.
Ils cherchent des indices.
Mais non, je suis né en 90, très grand cru pour les Bordeaux.
Ah oui,
33.
Ouais, 33 ans, j'ai... Puis non, célibataire, pas d'enfants...
Parfait.
C'est ça.
Puis tu commençais à glisser vers ton parcours professionnel suite à ton arrivée, fini les études à Montréal.
Ouais.
Peux-tu nous en dire un petit peu plus?
Ouais, ben en fait, même au niveau des études, c'est si on peut y revenir, parce que je pense que ça a été une partie importante de ma vie, puis qui m'a beaucoup permis d'arriver où je suis aujourd'hui aussi. Bon, le bac en com à l'UDM, c'est une chose, mais après, j'ai fait une maîtrise donc à HEC en affaires internationales et marketing.
Ça, je m'en allais là parce que je l'ai vu, ça, puis c'est quelque chose, ça.
Vraiment, ouais, vraiment le fun, puis j'ai eu la chance, en fait, de... En affaires internationales, c'était des profils de personnes qui venaient de partout au Québec, mais aussi de plein de backgrounds différents en termes de compétences. Donc, j'avais des gens en sciences politiques, des gens en communication comme moi, des gens qui venaient du milieu finance, des gens qui venaient genre d'ingénierie, mais qui avaient besoin de développer des compétences commerciales, business. Et ça a été un mix de rencontres qui était très, très intéressant. Et dans les cours, c'était que des projets en équipe où genre, tu te confrontais avec des personnes qui n'avaient pas du tout les mêmes idées que toi, mais il fallait quand même que tu trouves un terrain d'entente. Fait que ça prépare quand même assez bien, je trouve, de ce côté-là, à la différence de programmes plus... théorique, là, au milieu de l'entreprise, puis tu sais, où tu vas avoir des personnes super différentes.
Ouais,
c'est ça. Fait que non, j'ai beaucoup aimé ça. Puis j'ai fait un projet supervisé, donc c'est l'équivalent de ton mémoire, mais sauf que nous, je l'ai fait à l'étranger, en fait. Donc je suis parti au Brésil pendant 3 mois, pendant la Coupe du monde de soccer. Moi, je suis un fan de soccer.
C'est un bout de plate, ça, hein?
C'était méchant vraiment...
Brésil pendant le soccer. Je pense que tu étais à Sao Paulo.
Un petit peu. En fait, j'ai fait un cours avec... On est parti, une gang de 15 étudiants d'HEC, puis on a fait un cours en social business, dans le fond. Donc, on a visité plein d'entreprises et d'organisations qui, à travers un certain nombre d'initiatives, aidaient des populations traditionnelles, des populations locales.
L'entreprise sociale. Ah, ben, comment on
l'entreprise sociale, oui. Désolé pour les anglicismes.
OSBL, mais, c'est ça.
Non, c'est l'entrepreneuriat.
L'entrepreneuriat social, c'est des entreprises sociales.
Mais je pense que c'est les OSBL. Oui. Ben, en tout cas, les gestionnaires de ces organisations-là, c'est des gens souvent qui ont étudié dans le même type d'études, en effet.
Là, on allait, tu sais, voir des... dans les favelas à Rio, des services comme juste avoir accès à ton courrier, qui semble pour le commun des mortels assez basique, ben, ça ne marche pas dans une favela. Ça fait que là, il y a des organisations qui se créent pour permettre à des gens de la favelas, qui connaissent la favelas comme leur poche, de pouvoir aller distribuer le courrier parce que les services de poste traditionnels ont peur de se rendre là. Fait que, bref, on est allé visiter plein.
C'est trop dangereux.
Dangereux, puis oui, c'est ça. Donc, on est allé visiter plein de projets comme ça pendant un moment. Et on a fini sur une île qui s'appelle Ilhabela, qui est dans l'état de São Paulo. Et là, je suis resté avec un comparse à faire notre projet. Donc, on a vraiment travaillé sur un plan d'écotourisme communautaire avec des populations traditionnelles pour leur redonner de l'argent, entre guillemets, et des conditions dans leurs mains, dans un contexte où le gouvernement est un gouvernement très corrompu et des intérêts privés un peu véreux, essayer d'acheter les terrains de ces personnes-là qui sont là depuis des années pour faire du complexe hôtelier intensif. Et donc, nous, on est arrivé avec une contre-stratégie où on a aidé à ce qu'ils puissent aller chercher des revenus.
Ça, c'est-tu réel ou virtuel dans le cadre du cours? Est-ce que c'est... tu sais, parce que souvent, dans des formations, dans des cours comme ça, on a besoin de créer une entreprise fictive, on va dire. Oui. Celle-là, c'était réel?
Mais c'était réel. On travaillait avec une entreprise réelle sur place. Wow. Et nous, on était comme des consultants pour eux, dans le fond.
C'est une expérience de terrain, là.
Ouais, c'était vraiment wow. Où les gens ne parlaient pas anglais, moi je parlais espagnol, mais je ne parlais pas portugais, fait que je parlais portugnol, puis j'ajoutais les mots que je comprenais au fur et à mesure. Là, c'était tout
parce que là-bas, ce n'est pas espagnol, ça parle beaucoup
portugais. Portugais, 100%.
Ah, oui. C'est drôle, hein? Ben, tu sais, moi j'aurais pensé que au Brésil, on parle espagnol un peu.
Non, mais ça se ressemble un petit peu. Donc, il y a une certaine partie des gens qui comprennent.
Mais c'est beaucoup plus
espagnol.
Le portugais et l'anglais, naturellement, pour le
même
business.
L'anglais, là où j'étais, pas tant. Fait que, c'est ça.
Ce que je trouve intéressant dans ton parcours, de ce que tu nous partages là, c'est tout le principe de l'autonomie, développer l'autonomie. Puis en entrepreneuriat, en affaires, c'est le nerf de la guerre, hein, de développer les habiletés, les compétences pour être en mesure, finalement, d'opérer une entreprise puis de la rendre viable. Fait que les projets que tu as été amené à vivre dès le départ, là, en sortant de l'école, et même pendant ton parcours professionnel, c'est vraiment, vraiment cool.
Oui, puis je pense que j'avais jamais vraiment fait le lien avant récemment, mais on va y revenir sur l'ADN, ce qu'on fait, tout ça, mais comme la mission sociale du projet aussi, tu sais, je pense qu'elle a commencé à, dès ce moment-là, avec ce projet-là, elle m'a donné envie, en fait, ce projet m'a donné envie d'aller dans des missions comme ça, je pense, à la fin du chemin, puis... D'autres choses aussi pour lesquelles j'ai quitté la France, notamment le racisme, notamment plein de choses. En étant franco-tunisien, mais c'est pas marqué sur mon front non plus. Il y avait beaucoup de choses auxquelles j'étais confronté, que j'entendais dire, parce que les gens ne savaient pas que... Et là, c'est ça. Donc aujourd'hui, on se bat à différents niveaux contre les inégalités, pour plus de visibilité des communautés diverses et variées. Fait qu'on y reviendra par la suite. C'est ça.
Puis qu'est-ce qui t'a amené chez InfoPresse? Tu sais, dans ton parcours, dans ton chemin?
Oui. Fait que quand je fais mon bac en com à l'UdeM, je fais un stage en tant que journaliste chez InfoPresse à l'époque. Je pars en maîtrise, je finis ma maîtrise, puis dès que je finis ma maîtrise, ils me proposent de rentrer. Fait que j'accepte l'opportunité. Puis... ça se passe bien. Je travaille sur le contenu des conférences à la base. Donc, ma job, c'est vraiment de regarder les thématiques, les tendances, les thèmes au niveau des professionnels en communication marketing principalement. Et en conséquence de ça, de bâtir dans le fond des programmations de contenu événementiel pour répondre à leurs enjeux, leurs objectifs, tout ça. Fait que je commence à faire ça. Je passe directeur des contenus pour la programmation des conférences. Puis après, j'évolue jusqu'à être directeur du campus, donc le centre de formation de chez InfoPresse, qui était un produit à l'époque qui était quand même nouveau dans le modèle d'affaires. InfoPresse, c'était un média d'industrie au niveau des communications marketing, où il y avait des concours aussi. C'était vraiment le lien entre les annonceurs, donc les marques, les agences de publicité, les agences médias, mettons. Puis on était comme au milieu de tout ça. Puis ils ont développé un centre de formation et je pense que c'était une très bonne idée de leur part. Que
j'ai une espèce d'incubateur où est-ce que tout se pose dans la spirale, là, finalement?
Qu'est-ce que tu veux dire?
Ben, je veux dire, tout était là, dans la mesure où ce que autant les formateurs que les acheteurs puis les vendeurs de conférences.
Oui, ben dans le fond, c'est ça. C'était vraiment un comme le
point central.
Un incubateur, mais entre non pas les acheteurs et les consommateurs de conférences à la base, mais vraiment entre tous les acteurs de l'industrie des communications marketing. Ouais. Donc vraiment des directeurs marketing d'entreprises ABCD, X. Là.
Les créateurs.
Aussi bien les créateurs au niveau de la publicité, les agences d'investissement médias. Donc tout cet écosystème-là navigué. Puis Infopress, c'était un média d'industrie, comme les affaires, peut-être un média d'industrie, des affaires au sens large.
Ouais, ouais, ouais.
Infopress, c'était l'équivalent sur l'industrie des communications marketing spécifiquement. Puis là, ils ont ajouté un volet ou une corde à leur arc plutôt, qui était donc de développer un centre de formation intégré et qui aujourd'hui en fait est devenu, même ils ont changé de nom, là, ça s'appelle maintenant Formation Infopress, donc c'est le cœur du modèle d'affaires en fait. Et moi j'ai participé à mon humble niveau là, mais à la croissance en fait de ce produit là à l'époque où il était quand même assez récent. On avait une super belle équipe avec qui on a fait des belles choses. On avait fait des tournées d'ailleurs, on est à Québec, mais on avait créé un truc qui s'appelait le Campus s'installe, parce que c'était le Campus Infopress, puis on avait, je me rappelle, fait le tour du Québec pour aller dans des spas.
Des spas?
Pour que ça soit les endroits dans lesquels on faisait les formations Infopress à Québec, Gatineau, Trois-Rivières, Ottawa, parce que en fait, dans les bureaux d'Infopress, là, on donnait de la formation, c'était très boisé, très, très, très design, fait qu'on voulait retrouver un peu cet élément-là, puis... J'ai fait cette tournée avec Johan, qui était le directeur des ventes chez Infopress, qui a été mon associé quand on a lancé ADN, qui n'est plus là aujourd'hui, mais là, l'histoire est quand même intéressante.
Puis je trouve ça intéressant comme parcours chez Infopress parce que la mission était le partage des bonnes pratiques. Puis en affaires, c'est un des nerfs de la guerre, c'est d'être capable de bien s'entourer, d'aller chercher les compétences des autres, d'aller chercher les bons coups, les moins bons coups aussi, puis qui permet de grandir comme personne. Puis ton chemin de vie a été aligné toute ta vie, en tout cas de ce que j'ai appris, j'ai découvert, sur le partage, de mettre les humains en cohésion ensemble, puis d'aller chercher le meilleur de chaque personne, puis de faire grandir tout ça pour justement nous permettre, chaque individu en soi, de grandir, c'est ça, je trouve.
Mais
ça cool.
Mais toi, la bosse des affaires, Adrien, était où? Elle était cachée en dedans? Qu'est-ce qui disait qu'un jour, tu allais être entrepreneur, tu partais ta... Non?
Ouais, je sais pas, c'est drôle.
C'est un concours de circonstances.
J'en parlais avec une collègue, Marine. Alors, elle écoutera ça aujourd'hui.
On la salue, Marine.
On la salue. Salut,
oui.
De profil, tu sais, par couleur, là, je suis quand même très, très rouge.
Mettons. Oui, ah oui.
C'est ça. Donc, il y a ce côté-là, je pense, de la personnalité à la base. Puis après, non, en fait, j'ai toujours eu cette fibre intrapreneuriale-là. J'ai toujours, quand je travaillais dans des business chez Infopress, on en parlait avec Caro.
C'est comme si c'était ta business.
Ben, je me suis toujours investi comme tel. Puis l'idée de créer, je prends peut-être un peu d'avance, là, mais une agence de conférenciers, elle date de 2016, à l'époque où j'étais chez Infopress. Puis là, je travaillais avec des agences de conférenciers parce que je disais, beaucoup au niveau des États-Unis, on faisait venir des gros conférenciers pour des gros événements. Puis là, j'étais quand même... Il me semble qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Je ne suis pas pleinement satisfait par les services qu'ils offrent. Il y a peut-être une place à prendre. Puis j'avais pitché un peu cette idée en intrapreneur à l'époque, en 2016, sans que ça trouve nécessairement l'écho escompté. Puis je suis assez têtu. Fait que 2018, j'ai décidé de le relancer. Puis là, j'ai eu l'opportunité, on va en parler là, mais de me joindre à un réseau absolument exceptionnel qui s'appelle le réseau QG100. Fait que ça a retardé un peu le début de l'aventure entrepreneuriale. Mais c'était bien que ça se passe comme ça.
Parce que là, tu es en... corps employé à l'époque avec QG...
Infopress?
Non, après.
Ouais, c'est ça. Donc, je suis chez Infopress jusqu'en 2018. 2018, je veux lancer ADN, qui ne s'appelle pas encore ADN. Puis là, QG100, en fait, vient nous chercher, me propose d'être directeur des contenus pour ce réseau. Donc, juste pour la petite histoire, parce que les gens ne connaissent pas généralement le QG100, un réseau qui a fêté ses 10 ans il y a maintenant, donc il doit avoir 11 ans, qui a été créé initialement par Charles Sirois et Henri-Paul Rousseau, qui sont deux personnes assez influentes du monde des affaires. Réseau qui est accessible seulement à des entreprises de 25 millions au minimum, qui doivent avoir leur siège social au Québec pour en faire partie, et des activités à l'international. Donc c'est vraiment assez... select, mais la volonté, c'est vraiment que les entrepreneurs puissent s'aider entre eux, discuter des enjeux qu'ils ont dans un contexte d'internationalisation qui est vraiment la différenciation d'un réseau comme celui-là. Il y a plein de réseaux qui existent comme ça, là, tu sais, des... entre
IO,
chefs PME avec qui on travaille, YPO, mais eux, c'est vraiment ça, tu sais, c'est de la PME québécoise, c'est le siège social doit être au Québec.
Mais qui est en développement international.
Qui est global, c'est vraiment ça, parce que tu vis des enjeux dans certains marchés géographiques, sur, tu sais, en Asie versus en Afrique. Tu vas avoir des enjeux très particuliers selon les géographies. Puis l'idée, c'est de pouvoir faire du maillage, mettre en contact, créer des communautés d'intérêt, de partage sur ces thématiques-là.
Ben, j'avais plusieurs de mes professeurs à l'école d'entrepreneurship qui sont dans le QG100, des gens de Cascade, etc. Là, Marc Dutille et compagnie. Ouais. Donc, c'est des gens vraiment... là.
On les salue également.
Ben, oui, pour les salue,
certains. Hey, certains.
Puis, donc... QG100, un mandat. QG100, un mandat spécifique d'une période déjà prédéterminée.
Oui, ben c'est ça. Première entrevue avec Hélène Chartier, qui était la directrice exécutive à l'époque. Incroyable leader qui m'a beaucoup appris et qui venait, elle, de chez TELUS Santé dans des rôles de vice-présidence avant. Elle me passe en entrevue, puis je lui dis, OK, j'embarque, mais 2 ans. Parce que, genre, dans 2 ans, je veux partir ma business. Et là, tu me demandais quand est-ce que ça venait, tu sais, cette... Là, je veux partir dans le business. Là, l'entrepreneuriat, il avait.
T'étais honnête aussi, l'as dit d'entrée de jeu. T'étais honnête aussi avec toi, envers toi.
Oui, 100%. Mmh. Puis, donc, on part là-dessus. Puis, le mandat au QG100, la job, vraiment, c'était de regarder les tendances au niveau plus macro, tu sais, avec des Bain & Company, McKinsey de ce monde, donc quand même assez intellectuel comme contenu, puis d'aller croiser cette donnée-là très macro avec de la donnée d'entrevue avec des PDG du réseau ou avec des vice-présidents du réseau pour dire, OK, qu'est-ce qui vous empêche de dormir? C'est quoi les enjeux que vous rencontrez au quotidien,
le micro.
Puis de croiser ce micro et ce macro pour bâtir des programmations annuelles, engageantes, de conférences, formations, coaching pour ces PDG-là. Et une fois qu'on l'avait fait, et c'est une différence de ce réseau-là aussi que je trouve intéressante, au niveau des PDG, en fait, on déclinait l'ensemble de la programmation et de ces enjeux ou thématiques-là au niveau des 7 vice-présidents. Mmh. C'est-à-dire qu'on a des trames pour les CFO, VP Finance, VP RH, VP Marketing, tout ça. Donc, ça a été une expérience comme exceptionnelle en termes de développement de connaissances pour moi. Là, ça m'a donné une vraie vision 360 des enjeux que peut rencontrer une entreprise de cette taille-là. Puis l'ensemble de son comité exécutif, là, c'était incroyable comme expérience.
Oui, c'est ça. Puis dans les rôles de chacune des gens, on a des enjeux qui peuvent être différents, mais ultimement, l'enjeu principal, c'est l'humain derrière la posture, c'est comment 100%. Réussir à consolider tout ça, puis à rester aligné avec le grand plan, puis à le sentir, tu sais, que le why, la mission, pourquoi je fais ce que je fais, pourquoi je me lève le matin, que ça soit senti, vibré, pour développer le leadership, être capable justement d'amener les troupes à bon port.
Puis des fois, leur permettre, tu sais, dans des organisations qui sont... C'est des enjeux que beaucoup d'entreprises rencontrent, là, mais tu sais, le silo, puis genre, tu sais, les départements se parlent pas, ben là, comme tu comprends, puis on faisait des événements interfonctions, en fait, mettons le marketing et les ventes ensemble, tu sais, des fois.
Ben oui.
C'est ça, fait que, tu sais, ou les opérations et les RH, tu sais, mettons, fait que là, on venait vraiment parler d'enjeux, de problématiques, puis de solutions qu'on pouvait y trouver qui étaient très transversales, puis interfonctions.
Sur le terrain aussi, tu sais, qui était dans le feu de l'action. Dis-moi, Adrien, est-ce que dans le QG100, ton rôle, ben, je vois le titre, le directeur contenu et programmation, ton rôle t'a permis justement, peut-être qu'aujourd'hui ça te sert encore, c'est des beaux contacts, on ne se le cachera pas, là. C'est du beau réseautage, quand même.
Écoute,
il parlait de quoi? Il me dit, il appelle ça QG100, mais il y a 90. Tu me corriges?
Membres?
Oui.
Mais maintenant, il y en a une centaine, je pense.
Okay.
Mais en fait, c'est parce qu'on veut...
Je voyais 90 entreprises dans le siège social, mais là, ça a peut-être changé le texte, là.
C'est parce qu'ils veulent...
ils veulent se rendre à 100.
Ils veulent, ben non, mais ça, je pense qu'ils n'ont pas de misère à faire. Au contraire, ils veulent se limiter à 100 parce que c'est un réseau qui se veut. En tout cas, je ne sais pas où ils sont. Je vais faire attention à ce que je dis. Peut-être qu'aujourd'hui, ça a changé, mais à l'époque, on voulait se limiter à 100 pour justement garder cette proximité, cette qualité dans les échanges, c'est ça. Puis il n'y a pas de concurrence à l'intérieur du réseau aussi. Fait que tu sais, il n'y en a pas non plus des milliards, des entreprises de 25 millions de chiffre d'affaires et plus qui ont des activités internationales et leur siège social au Québec. Ça fait que, au bout d'un moment, c'est ça. Je ne pense pas qu'il puisse y en avoir.
Est-ce que tu as gardé, en fait, mon point, c'était un peu ça, c'est le fait d'avoir, tu étais quoi, 2 ans?
2 ans, oui.
2 ans. Est-ce qu'il y a des liens qui se sont créés, que tu gardes encore aujourd'hui parce que c'est au bienfait, mettons, de ADN?
Je ne sais pas. C'est toi le pro du réseautage, j'aurais dû, peut-être?
Je ne sais pas. C'est vrai. Moi, je lance la perche parce que, vous savez, les gens qui me connaissent, le réseautage, c'est pas juste de rencontrer des gens, c'est l'après. Mm-hmm. Hein, il faut maintenir les réseaux.
100%.
Le réseau des réseaux.
Le réseau des réseaux.
C'est qui tu connais? Hein, ton grand-père, il disait ça, hein, Caro?
Oui, qui tu connais.
Qui tu connais.
Tu voulais dire quelque chose, Caro?
Mais je voulais juste faire la parallèle. Donc, tu savais déjà que tu allais partir ton entreprise. ADN était déjà dans l'essence. Est-ce que ça s'appelait ADN au moment où tu l'as lancé?
Non, c'était encore une idée. Là.
Mais tu gardais-tu dans la tête que c'était ces gens-là que tu allais peut-être avoir comme client?
Non, vraiment pas. Parce que, comme je te disais, c'est sûr que ça a été intéressant.
C'est des gros noms.
C'est ça, des gros noms. Puis, tu sais, c'est un beau réseau. Mais évidemment, tu sais... Parce que c'est un sujet quand même touchy, puis je vais faire attention là. J'ai jamais travaillé au QGSN dans la volonté derrière d'utiliser ce réseau-là, tu sais, parce que c'est pas que je suis rentré là, je voulais vraiment travailler là. C'était mon objectif de vie de travailler là pour aller après utiliser ce réseau-là pour aller vendre des conférences. C'était pas du tout ça. L'idée, c'est que j'avais une idée de créer une agence qui datait de 2016. En 2018, ils sont venus me chercher. Puis là, j'ai gardé ce rêve-là en prenant une parenthèse.
Ça l'a juste prolongé.
C'était vraiment ça. T'sais. Puis évidemment, j'ai bâti un réseau incroyable où aujourd'hui, je suis encore en contact avec beaucoup de gens. Mais tu sais que de toute façon, que je n'avais pas le droit d'aller solliciter de toute façon. Donc là-dessus, c'était quand même assez clair, de façon tout à fait normale et légitime. Mais aujourd'hui, oui, j'ai certaines personnes qui siègent, par exemple, sur mon comité aviseur, qui m'accompagnent à différents niveaux. J'ai des clients qui sont des membres du QGSN, des conférenciers aussi que j'ai eu l'occasion de rencontrer dans ce réseau-là.
Oui.
C'est ça.
Écoute, moi, je suis fascinée par... Là, tu disais, en 2018, on est rendu en 2020. Moi, j'ai un mot qui me vient en tête, la pandémie.
Mais
oui. Tu pars une agence de conférenciers.
En juillet. Tu pars ça en juillet, toi?
Oui, 2020.
Aïe, aïe. Hein?
Donc, le Québec est sur pause.
C'est oui.
Il n'y a plus de conférenciers en présentiel. On est tous en mode virtuel.
On mange tous du beurre de peanut. Des conférenciers, je parle.
Oui.
Puis parle-moi là, de la nativité, finalement, de ton entreprise.
Depuis, je donne des conférences sur le lancement de produits. Non, c'est pas...
Comment manger du beurre de peanut? Moi, j'ai une belle conférence là-dessus, moi, dire. C'est le fond là-dedans. Ouais.
Non, mais en fait, je me dis, l'idée, elle est là depuis longtemps, elle est réfléchie. On va parler de la différenciation qu'on a dans le marché, puis de nos valeurs, tu sais, qui sont essentielles. Mais je pense que COVID, pas COVID, elle était là. Puis je me suis dit, OK, si on... On le fait pareil. Si au bout de 6 mois, tu sais, je suis capable de manger, ne serait-ce que des pâtes, c'est que je pense que
des pâtes pas de sauce,
c'est ça. Des pâtes au beurre de peanut, non. c'est que la réponse et le besoin dans le marché, c'est il est là et qu'on trouve une solution à ça. Puis on le fait, le move. Puis à l'époque, je le fais. C'est important de le préciser là avec Johan. Donc Johan, qui est un ami, qui a été mon associé quand on a lancé ADN, qui était le directeur des ventes chez Infopresse. En fait, c'est comme ça qu'on s'était rencontré. Lui, là, il est sorti du projet après quelques mois. On est encore en très bons termes. Mais bref, on lance, puisqu'il est rentré en France, puis c'est lui, justement, il a voulu se construire une vie de famille qui était peut-être moins facile avec la réalité c'est macro à ce moment-là, avec le contexte du COVID, plus le fait que tu voulais avoir un enfant, puis t'acheter une maison, c'est comme ça marche moins avec la réalité entrepreneuriale, puis c'est très correct.
L'important, c'est que vous soyez en bon terme encore.
J'ai hâte de le voir. J'ai pas réussi à le voir, j'étais en France cet été, là, mais j'ai très hâte, en décembre, janvier, je vais probablement réussir à le voir. On lance. Oh, vas-y.
Mais pourquoi ADN?
Le nom, parce qu'en fait, c'est ça.
C'est
les deux premières lettres de mon prénom, Adrien, puis la dernière lettre du mien, mais aussi à la base, c'est pour ça qu'on l'avait fait comme ça, celui de Johan. Puis c'était ADN, tout ce qui se passait entre les deux, dans le fond. Entre le AD, puis le N, puis c'était un peu le meilleur de nous deux. Aujourd'hui, ça marche aussi avec Adrien, fait que je suis sauvé.
En fait,
l'idée, c'était aussi de se dire, chaque conférencier a un ADN qui lui est particulier, qui lui est propre, qui lui est différent. Il a ses thèmes, il a sa personnalité, il a tout ça. Mais en même temps, on a un ADN commun qui se retrouve autour de notre marque, autour de nos valeurs, autour de nos couleurs. Puis l'idée, c'était donc d'avoir ces... Tu sais, je pense que ça transmettait bien, aussi bien le côté individuel, personnalisation, tu sais, de chaque être humain qui compose la famille des talents ADN, mais sous un chapeau qui est le nôtre et qui nous appartient.
Bravo. Puis, comment ça a été le départ, justement? Parce que après 6 mois, on allait voir comment on allait s'ajuster. Ouais, tu es encore avec nous aujourd'hui, oui, donc je présume que ça se fait bien été.
Juste en Zoom, au début, ça devait être juste en
Zoom. Hein? C'est que du virtuel. On part avec une équipe, en fait. Moi, j'avais déjà comme une vingtaine de conférenciers qui avaient signé avec nous, quasiment tous de façon exclusive, qui est aujourd'hui quelque chose qui est très important pour nous aussi. On part. Ça commence tranquillement, septembre, octobre, on a les premiers projets. Puis en fait, après, il y a quand même une période où les gens ne savent pas quoi faire pour leur party de Noël en décembre.
Ouais.
Puis on a la chance de travailler avec une femme incroyable qui est Jessica Arnois. Fait que là, on lance une offre de party de Noël à distance, dégustation de vin. Puis ça a quand même vraiment bien marché, honnêtement.
Ah ouais.
Je l'avais vu passer, moi.
En ligne, là. Tu dégustes des vins, mais tu les vois.
Tu reçois les boîtes à la maison, tout le monde, puis tout est
allumé. C'est brillant, ça.
Ce qui a permis à Jessica, elle a peut-être pas mangé que du beurre de peanut à ce moment-là, du coup. on lance avec 20 conférenciers, on développe le produit comme ça, puis honnêtement, après, ça s'enchaîne assez rapidement. T'sais, on fait une première année, on fait 250 000 de chiffre d'affaires. Deuxième année, on fait le double. Puis là, on a quasiment encore fait 100% de croissance pour se rapprocher du million. On vient de terminer notre troisième année financière.
Félicitations. Puis là, il y a combien de... Parce que je n'ai pas ouvert le site...
Vous avez combien de conférenciers?
T'as pas fait tes devoirs comme Caro?
Non, moi, je ne suis pas comme Caro. Moi, je ne suis pas discipliné comme Caro. Je suis allé voir ton LinkedIn, par exemple. Ça m'a impressionné. Oui. Mais il y a combien de... T'as combien de conférenciers?
50, en fait. On a 50 talents. Qui sont répartis sur plusieurs produits. En fait, ça s'appelle ADN conférencier, mais on fait plein d'autres choses en fait que des conférenciers. Puis on est
l'animation,
en train de reposer.
Team building.
C'est ça.
Exactement.
On fait plein.
Vous avez 5 branches. Tu disais tout à l'heure.
Ouais. On est en train de refaire l'offre de produits là, mais à la base, puis quand on a lancé le business, c'était vraiment des conférenciers, des animateurs. Puis aujourd'hui, ça reste le cœur de métier, mais on est en train vraiment de faire évoluer l'offre de services. Et donc, conférenciers sur des thématiques diverses et variées. Puis quand on dit conférencier, c'est pas juste quelqu'un qui vient parler 45 minutes, là. C'est en fait un thought leader, un leader d'opinion qui va venir et présenter son expertise, son expérience, son histoire. Puis après, le format, tu sais, on va l'adapter, que ce soit une entrevue, que ce soit qui participe à un panel de discussion ou que ce soit une conférence de 45 minutes ou de 2 heures. Tout ça, c'est des choses qu'on met...
C'est du conférencier.
On fait toujours du sur-mesure.
Selon les besoins de vos clients.
Ouais, puis je pense que, en fait, je veux cracher sur personne ici, là, mais ça, pour moi, en tant que client, quand j'étais du côté client, c'était un des irritants qu'on vienne m'offrir des conférences en canne. Tu sais, je veux dire, quelqu'un qui fait une conférence, qui l'a fait mot pour mot... et que je paye 50 000 $ qui fait mot pour mot la même conférence qu'il a fait 1500 fois sur des stages dans sa vie, ça n'a aucune valeur pour moi. Puis visiblement, de ce que je comprends quand je parle avec les clients, ça a peut-être moins de valeur aussi pour les clients. Fait que nous, c'est vraiment ça qui nous différencie. Un des éléments, en fait, c'est ça.
Donc, je m'imagine là, être dans la posture d'un client qui va chez ADN. Moi, j'arrive avec mes enjeux d'entreprise que je veux faire émerger à travers un team building, une conférence, avec quoi je souhaite les outils que les gens repartent. Vous alignez le conférencier. Le conférencier, le client et vous se rencontrent. Ouais. On échange sur les besoins. Le packaging, comment est-ce qu'on peut le présenter? Ouais. Comment est-ce qu'on est capable de peaufiner finalement l'expérience? Le moment les gens vont vivre, à savoir la durée, etc., tous les détails, mais surtout le « what's in it for them », avec quoi ils vont repartir.
100%. Tu l'as bien résumé. Sauf qu'à différence près que tu sembles être une cliente avec un brief précis et clair, ce qui n'est pas tout le temps.
OK. De réussir déjà à cibler les besoins de tes clients,
en fait, souvent,
à clarifier.
On a toujours... n'importe quel projet, on fait un appel exploratoire où je passe à travers comme une quantité assez importante de questions. Puis tu sais, on fait vraiment... On prend le temps de faire les choses. Puis des fois, les gens veulent une personne. Puis je veux d'abord te poser des questions pour m'assurer
que c'est la
bonne personne.
Ben oui,
parce que peut-être que pour des raisons qui te sont propres, tu penses que c'est la bonne personne, mais peut-être que finalement, ce n'est pas la meilleure personne. Peut-être qu'elle est bonne, mais peut-être qu'il y a 3-4 autres options que tu pourrais éventuellement considérer.
Absolument.
À des budgets différents, avec des formats différents, tout ça. Bref. Donc oui, généralement, c'est comme ça que ça se passe. La personne vient nous voir, je lui pose des questions. Oui, au niveau, mais là on parle vraiment dans le cas d'un conférencier, mais en fait on pose des questions sur l'intégralité des types de produits dont il peut avoir besoin, donc animateur, team building, expérience pendant l'événement, name it, là. Puis en conséquence de ça, on va leur faire des propositions de conférencier, une fois que c'est retenu, ou d'intervenant, de talent en fait. Une fois que ce talent-là est retenu, surtout sur de la conférence, à la différence peut-être d'autres agences avec moi, lesquelles j'ai eu l'habitude encore une fois de travailler, je ne suis pas là pour cracher sur qui que ce soit, mais au niveau international, moi, j'étais mis en contact avec le conférencier direct quand j'étais chez le client, chez Infopresse ou QG100. L'agent, il disparaissait, il passait un autre deal, puis il prenait sa cut. Moi, je suis là sur les appels, puis l'équipe, tu sais, il y a Marine avec qui je travaille, il y a Alban, on va être là sur les appels entre le client et le conférencier, puis on va challenger la meilleure façon de faire le contenu avec le conférencier et le client. Parce que justement, on est des experts en contenu. Ben, je suis un expert en contenu avant d'être un entrepreneur ou un agent, puis ça, c'est vraiment important. Puis ça, c'est la valeur ajoutée qu'on amène aussi beaucoup dans le marché. OK, pourquoi vouloir faire une conférence de 45 minutes en virtuel, tu sais, one shot, là, tu sais, les gens, ils sont fatigués, il faut absolument couper le contenu à certains moments, il faut qu'on ait des interactions avec l'audience, il faut que... Fait que ça, c'est le genre de choses qu'on va venir discuter.
C'est qui vos clients?
Bonne question, merci. On travaille avec 5 clientèles, 3 primaires, je dirais. Le corpo, en direct, ça peut être de la très grande entreprise, Desjardins, Lightspeed, Gsoft, pas maintenant, qui est Worklip, Bell Media, ça c'est pour les agences ici, pour les entreprises ici. On travaille avec des bureaux d'avocats, Osler, on travaille de façon pan-canadienne avec eux, ils sont partout au Canada, même aux États-Unis. Donc le corpo, grande entreprise, après on travaille avec des PME. Si on a fait récemment Espresso Communication, qui est une agence d'une cinquantaine de personnes, où on a fêté un de leurs anniversaires. Puis là, c'était justement un team building où les gens apprenaient à se rencontrer et tout ça. Donc, je dirais pas mal n'importe quelle entreprise, à partir de même 10 employés, parce qu'on fait des lacs à l'épaule, on fait de la planistrate, ce genre de choses-là. Mais donc, on va avoir le corpo, je reviens à la question, en direct. Grande entreprise, PME, d'entreprise en dessous de 10 personnes, là, je pense que c'est, généralement, ça ne marche pas. Il faut quand même une masse critique d'individus.
Puis un budget aussi, c'est souvent seulement la gare.
Après, on va travailler beaucoup avec les agences événementielles. Donc, des agences qui ont des besoins de contenu à travers des programmes ou des projets qu'ils livrent pour des clients.
Comme Noir Confetti, qui est avec nous tantôt.
Salut, je Sonia. Je ne connais pas, faut que tu me la présentes. Peut-être.
Ben oui, puis elle est tellement fine. En plus, ça fait déjà 20 ans qu'elle est dans le domaine de l'événementiel. La belle Sonia nous a raconté ça. Je t'enverrai, Adrien, l'entrevue qu'on a fait ensemble. Puis elle est toute petite, elle est toute jeune. Ben tu sais, quand on dit 20 ans, c'est, hein, c'est avec deux grands-enfants. Mais elle est toute petite, pareil.
On travaille avec les agences événementielles, effectivement, qui vont, encore une fois, livrer des projets, faire la logistique, faire la production, faire même des fois la scénarisation. Puis nous, on va venir leur proposer le bon intervenant ou la bonne intervenante de ce côté-là. Puis on a des partenaires incroyables avec qui on travaille, Niché, OPC Événements, surtout avec qui on travaille, Altitude C, qui sont des agences avec qui j'ai beaucoup de plaisir, puis que je remercie pour leur confiance. Après, on va travailler aussi avec des OBNL, donc on en parlait tout à l'heure, organismes à but non lucratif. En fait, je suis à Québec, là, pour un congrès de notre client qui est l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés, sur lesquels on avait deux de nos conférenciers qui intervenaient hier. Donc, on travaille avec l'Ordre des ingénieurs du Québec, le réseau QG100, qui est un organisme à but non lucratif. C'est encore un client d'ADN aujourd'hui. Donc, on va travailler avec eux. On va travailler avec l'Ordre des patients immunodéficients du Québec. On travaille vraiment avec tout type d'organismes à but non lucratif, puis avec vraiment tout type de budget aussi. Et en fait, à travers la mission sociale d'ADN, on y reviendra par la suite, mais on offre définitivement en fait, des tarifs évidemment plus avantageux aux organismes à but non lucratif.
Parce que c'est des organismes subventionnés, fait qu'ils ont des budgets plus limités.
Des fois subventionnés, des fois c'est des fonds privés aussi, mais tu sais, reste que ce n'est pas des entreprises à but lucratif par définition, fait qu'ils ont parfois moins de budget. Donc on va vraiment leur proposer des tarifs préférentiels. Fait que ça, c'est vraiment les trois clientèles primaires. Puis dans un second temps, de façon un peu moins importante, mais on a tout ce qui est... Puis quand je parle d'entreprise, là-dedans, j'intègre aussi tous les organismes, enfin les entreprises gouvernementales ou paragouvernementales en fait, parce qu'on en fait beaucoup. Mais donc, ce n'est pas des entreprises privées, c'est des entreprises gouvernementales. Mais pour moi, elle fonctionne de la même façon quand même au niveau de la structure, au niveau des tailles des équipes, au niveau de tout ça. Fait qu'on la met dans la même grande famille, mais on travaille beaucoup. Ministère du Conseil exécutif, justement, à Québec, avec qui on travaille ici notamment, tout ça. Donc, pour les autres, on travaille avec le milieu universitaire ou formation professionnelle, avec des clients comme Polytechnique Montréal, l'ETS, HEC, l'Université de Montréal, ça c'est des clients avec qui on va travailler. Puis on travaille en dernier lieu, de façon moins importante, mais avec des grands événements plus publics, fait que c'est de Montréal, par exemple, un client, le Salon du Livre de Montréal, donc c'est ça pour les clientèles.
Moi, il y a une question qui monte en moi, là, Régent, je veux pas te... Je suis vraiment curieuse de savoir, c'est quoi tes défis comme entrepreneur en ce moment? Tu sais, dans, on est en 2023, là, donc c'est quoi tes défis?
C'est sûr que c'est des défis qui sont liés à la croissance. C'est plutôt une bonne nouvelle parce que ça va bien. Puis nous, on n'est pas une tech non plus, donc tu ne peux pas scaler en bon français. Ouais. Donc, il y a des défis qui sont liés à l'humain. Comment trouver les bonnes personnes pour travailler dans l'équipe? Tu sais, puis je pense qu'on a aussi des forces, des faiblesses en tant qu'entrepreneur. Puis moi, c'est le bout que je trouve le plus difficile aussi quand même d'embaucher du monde, de gérer ce côté plus au niveau RH, là, pour être tout à fait transparent. Fait que ça, c'est quand même un défi important. Trouver les bons talents, les garder, les mobiliser dans un contexte où aussi, pendant très longtemps, de par la situation de pénurie de main-d'œuvre, la guerre des salaires était quand même un peu rendue complexe pour une petite organisation qui n'a pas non plus les moyens. Mais on va leur proposer beaucoup de choses de l'autre côté. On a récemment d'ailleurs été finaliste pour le regroupement des jeunes chambres de commerce RJCCQ là, qui
mais bravo.
Merci pour justement tout ce qu'on fait pour les employés. Tu commences chez nous, tu as 4 semaines de vacances directement, tu peux travailler partout où tu veux dans le monde, tu as des jours que tu peux prendre à n'importe quel moment si tu te sens mal, si tu as des menstruations douloureuses, si t'as, on a quand même on met en place pour une petite entreprise, dans des grandes entreprises ça paraît assez normal, mais à notre taille je pense que c'est déjà bien ce qu'on essaie de faire, la semaine de 4 jours et demi en été, bref, fait qu'on n'est pas encore rendu à la semaine de 4 jours, je pense que l'équipe aimerait bien, mais c'est un autre sujet.
Défi,
je te dirais ça. Donc gérer l'équipe, atteindre nos objectifs qui sont ambitieux en termes de vente, même si on n'a pas eu de misère jusqu'à présent, mais l'année prochaine, là, on commence tout juste une nouvelle année, puis on a quand même des objectifs ambitieux. Puis là, présentement, je dirais quand même que la récession et le contexte macro, on le regarde assez attentivement, on fait des scénarios à différents niveaux, parce que ça se peut que ça frappe quand même. Après, je pense qu'on est protégé quand même dans ce contexte-là, parce que pour deux raisons. D'une part, les entreprises vont, c'est sûr, couper des personnes, donc avoir moins de gens pour réduire leurs coûts, réduire les investissements. Mais elles vont toujours avoir besoin de former, de mobiliser, dans un contexte où tu as moins de gens qui doivent faire plus de choses. Fait que tu dois avoir des compétences qui sont beaucoup plus transversales.
Il y a des obligations de formation aussi dans les entreprises.
Puis la loi du 1%. C'est ça. Fait que là aussi, si tu as plus de 2 millions de masse salariale, tu es comme dans l'obligation de former fort heureusement tes employés. Donc je pense qu'on est quand même protégé face à la crise avec ces deux éléments.
As-tu la chance d'en écouter plusieurs? T'sais, on parlait tantôt d'une cinquantaine de conférenciers ou du moins d'intervenants. Y en a-tu qui t'ont marqué plus que d'autres? Sans dire que tu les aimes plus que d'autres, mais je veux dire, je vois ici mon amie Marianne, Madame Labriski. Moi, je l'ai reçu en entrevue, mais écoute, bienvenue qu'on aimait aussi, mais en conférence, elle doit être capotante.
Oui, mais c'est peut-être pas le meilleur
exemple.
On ne travaille plus avec Marianne depuis récemment.
Ah. Mais, elle trouve rendu populaire.
On est en super bon terme. Non, mais en fait, c'est un super bon point, je pense, par rapport aux valeurs qui nous animent puis la façon dont on travaille. Marianne, c'est une femme incroyable que j'aime beaucoup, mais avec qui on travaille de façon non exclusive, et c'était son choix, alors qu'on ne travaille aujourd'hui que de façon exclusive.
Donc,
pour cette raison-là, et parce que elle prenait, elle gérait ses conférences de son côté et sa clientèle, ouais. ce qui est très correct, mais qu'elle a aussi commencé à travailler avec d'autres agences de conférenciers.
Ouais.
Moi, je n'avais plus d'intérêt à travailler avec elle non. dans ce contexte-là. Ça marchait moins avec notre mission, puis la façon dont on voit les choses, tout simplement. Donc c'est ça. Mais oui, pour répondre à ta question, en fait, lorsqu'un conférencier veut travailler chez nous, généralement, il y a tout un processus très rigoureux de sélection qui se fait. Donc, on demande à chaque personne qui nous envoie du contenu, on va regarder, visionner les conférences, si c'est des gens qu'on n'a jamais vus en conférence. Puis, une fois qu'on a approuvé qu'il y a un stem de qualité, là, on va passer à l'étape super, différente. Mais, mais oui, tu sais, pour le très frais, là, déjà, on essaie d'aller voir le plus souvent possible les conférenciers parce que nos clients sont là aussi. Puis, je pense que ça nous permet de voir tout le monde.
Ça doit être le fun. Mais j'aimerais ça. En tout cas, moi, je vois les noms. Là,
sur, voyager
je parcours
et
rencontrer le site là, de adn-conférencier.com. Puis, je vois des noms. Il y a un paquet de gens, naturellement, que je connais parce que c'est un petit milieu, hein, les conférenciers.
Puis, tu parlais des gens, mais tu parlais aussi des valeurs. Puis moi, je serais curieuse, est-ce que tu nous partages les valeurs de ADN?
C'est quoi l'ADN d'ADN?
Hey, my God, que t'es perspicace. C'est bon, ça.
Là, il est supposé avoir un son là, qui fait « tching ».
Ouais, les valeurs, super importantes, mais... Je ne sais pas si je l'ai dit ou pas, mais en fait, la volonté à la base, l'idée de créer une business qui est celle que j'ai aujourd'hui, c'est que j'avais encore une fois j'avais des choses qui me gossaient, qui m'irritaient lorsque je travaillais avec des agences de conférenciers. Et encore une fois, au niveau international principalement, donc je tiens à le préciser. Il y avait trois irritants majeurs, et ces trois irritants majeurs sont aujourd'hui la propulsion de valeur d'ADN. Fait que le premier, c'est que j'étais tanné, désolé pour toi Réjean, je ne sais pas quel âge t'as, mais je vais y aller pareil. Non, que 90% du temps quand je cherche un conférencier, soit un homme blanc de 50 ans et plus qu'on me propose. Donc ça, c'est quelque chose contre lequel on se bat. Donc on a une approche qui est responsable chez ADN dans les profils qu'on représente. Fait que sur les 50 talents qu'on a, 60% aujourd'hui sont des femmes, des personnes en situation de handicap, des femmes trans, des personnes racisées, des jeunes. La volonté, c'est de donner la parole à tout le monde et pas juste à cette élite-là. C'est excessivement important pour nous.
Ouais, puis les jeunes, ils ont beaucoup à apporter.
100%. Puis comme de l'autre côté, tu sais, des personnes plus âgées ont aussi, on parle beaucoup d'enjeux multigénérationnels, puis transfert de connaissances multigénérationnelles. On a un conférencier là-dessus qui s'appelle Carl Honoré, qui est absolument incroyable. Mais donc, il y avait vraiment cette volonté dans la représentativité des gens qu'on avait, d'avoir cette diversité. Et on allait plus loin quand on parle de responsabilité. Puis aujourd'hui, on a développé un outil qui s'appelle le calendrier de la responsabilité sociale des entreprises. On va venir justement aller plus loin dans cette mission. Et au lieu de, en fait, au-delà de représenter des gens issus de la diversité, qui pour certains vont parler d'enjeux sociaux, environnementaux, certains d'autres, on va venir travailler en fait avec les organisations sur... Que vous avez un plan stratégique à 3 ans. Dans ce plan stratégique à 3 ans-là, vous avez des valeurs clés. Je vais dire n'importe quoi. L'émancipation des femmes leaders, la protection de l'environnement, puis les enjeux de santé mentale. OK. Moi, j'ai rien inventé, mais il y a un organisme qui fait assez bien son travail, qui s'appelle l'Organisation mondiale de la santé, qui a développé des journées internationales pour parler de ces enjeux-là. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas en parler toute l'année, attention, mais c'est sûr que c'est des moments où on peut soulever...
C'est une plateforme.
Tu l'as au niveau international, tu l'as au niveau Canada, de la même façon, puis il y a vraiment des initiatives au niveau Québec. Donc là, on va dire, OK, comment est-ce qu'on peut, à travers l'année, si tes valeurs clés, puis les éléments en lien avec l'environnement ou la société que tu veux prôner dans ton plan stratégique, puis qu'on soit au cœur de tes valeurs en tant qu'entreprise, Danone, c'est pas du tout le cas, mais mettons, c'est que t'es Danone, OK. Et ben comment est-ce qu'on va venir articuler une programmation de contenu, de discussion dans l'organisation autour de ces thématiques-là? Puis là, on
c'est
va
comment
venir
faire vivre la culture d'entreprise à travers
ça,
des actions.
À travers
actions.
Les thématiques clés, exactement. Okay. Fait que là, on va venir dire, OK, bon, ben, pour... Par exemple, la semaine, là, on a un projet avec, je ne le dirai pas parce que je ne veux pas que les employés le sachent avant que ça arrive, je ne sais pas quand c'est supposé sortir, là, mais on dit, OK, santé mentale, eux, c'est un des enjeux principaux, puis le 15 octobre, c'est la journée internationale de lutte pour la santé mentale. Mm-hmm. Là, on va aller, on va dire, OK, au lieu de faire une conférence virtuelle, puis les gens, ils sont tannés de conférences virtuelles, là, je pense qu'on est revenu en présentiel, ça fait du bien.
Ouais,
surtout pour parler de santé mentale. Là, on leur dit, bon, bah, écoutez, on va faire un audio, en fait. Donc, on a enregistré un balado avec Yann Martin, qui est un de nos conférenciers, qui est le Chief Marketing Officer de Reebok Monde. L'ancien, Chief Marketing Officer de Reebok au niveau Monde, qui est aujourd'hui un coach, un consultant incroyable, et qui va venir parler. Lui, c'est quelqu'un qui fait de l'anxiété chronique à chaque jour, mais en même temps, c'est comme un des leaders que j'admire le plus. Là. Il nous a aidé
dans notre planning. Comment il deal avec tout ça? Puis là, c'est il est ça. Dans un partage d'informations, d'astuces.
Astuces.
D'expérience aussi sur le terrain, parce que lui, il vit, et c'est facile pour lui d'en parler.
Puis lui, il l'a pris dans le sens de... Quand il était chez Reebok, l'histoire est quand même le fun. Ben, il était en charge du marketing, puis Reebok avait fait une campagne internationale qui s'appelait, où ils ont repositionné le brand complètement, c'était Be More Human, c'était quand même gros. Puis lui, il était à l'initiative de ça, mais il était à l'initiative de ça dans la marque, on va dire, qui a rayonné internationalement, puis dans les campagnes, mais aussi à l'interne. Puis à l'interne, il est comme devenu un espèce de gourou, mais dans le bon sens du terme, il a commencé à permettre, un influenceur, je pense que le mot est meilleur, pour venir parler d'enjeux de santé mentale et d'accepter d'en parler à travers son expérience, lui, personnelle. Puis c'est de ça dont il parle aussi dans ses conférences. Il est sur un projet de livre qui s'appelle « How we should all get naked », donc sur le « in front of people », comment on devrait tous être nus, se mettre à nu devant les gens. Donc c'est vraiment sur le pouvoir de la vulnérabilité, pour des équipes de vice-présidence, des équipes exécutives notamment. Donc bref, tout ça pour revenir à la santé mentale.
La vulnérabilité.
C'est très d'actualité. On en a parlé pendant mon intervention aussi beaucoup, mais ça, je trouve ça intéressant parce qu'on connecte plus facilement avec les gens quand on les sent humains, quand on les sent à la même hauteur que nous, avec les mêmes enjeux, atteignables, vulnérables dans « on a tous des défis, on est des êtres imparfaits ». Donc, systématiquement, quand on reste authentique puis qu'on est capable juste de dire les vraies choses telles qu'elles sont sans les amplifier, les embellir et autres, bien, je pense que ça permet aux gens de dire, tu sais, de connecter avec la personne puis de dire, bien, si lui vit ça, moi, j'ai le droit de le vivre aussi.
Ça donne une... Je pense que le mot n'est pas le bon, mais crédibilité, ou en tout cas, ça... Mais ça ne devrait pas être le cas, puis c'est pour ça qu'on se bat aussi, mais de vivre ces choses-là.
Certaine accessibilité aux gens, tu sais, de... Ah ouais, c'est un être humain, tu sais.
Même s'il a vécu tout ça, mais en tout cas, je me suis écartée du sujet.
Non, mais c'est super intéressant parce que, tu sais, on parle des valeurs, on a parlé d'ADN, on a parlé de tes clients cibles. Ouais. Là, j'ai le goût de te poser la question, moi, au niveau de vos conférenciers, comment vous les trouvez? Est-ce que c'est eux qui viennent à vous? Vous les identifiez, puis vous les cherchez, vous les traquez? Parce que là, je comprends qu'ils vont à l'international, ils peuvent autant se déplacer dans la francophonie. Mmh. S'ils sont bilingues ou trilingues ou autres, ils peuvent être appelés à donner des conférences un peu partout dans le monde.
Mais là-dessus, justement, tu parlais de bilingue, trilingue, là, dans les valeurs qui sont super importantes aussi, c'est ce volet international, en fait. Nous, on a des speakers, conférenciers de talent qui sont partout dans le monde, puis qui doivent être bilingue, c'est comme une condition quasiment sine qua non pour travailler avec nous parce qu'on a des clients qui ont des besoins dans les deux langages. Pour en revenir à ta question, donc, ça a été assez organique à la base comme process. Moi, j'avais beaucoup de conférenciers dans mon réseau, de par mes expériences passées. Puis j'en avais parlé avec des conférenciers, mais qui étaient pas nécessairement des conférenciers de métier, des gens aussi qui ont des rôles de direction dans des entreprises, des CEO.
Ils sont appelés à parler.
Avec qui j'avais parlé, puis j'avais commencé à brainstormer un peu avec eux, leur parler de mon idée, puis c'était comme, OK, oui, let's go. Puis si tu le lances, on embarque avec toi. Mais c'était vraiment, moi, des conférenciers que je trouvais très hot, que j'avais vu plein de fois en conférence, justement, puis qui avaient aussi, je pense, le goût de comme, m'aider à partir. Enfin, au début, ça a été comme ça, honnêtement. J'ai bâti un pool d'une vingtaine de conférenciers qui étaient quasiment tous des gens que je connaissais personnellement ou qui étaient dans un réseau de grande proximité et qu'on nous avait recommandé dans ce premier niveau de réseau-là. Après ça, on a recruté 20 autres conférenciers. Puis là, on commence à avoir plus de demandes de ça. Puis jusqu'à aujourd'hui, en fait, on a eu 400 demandes de personnes qui nous ont demandé de les représenter dans les trois dernières années. Et donc, environ 350 qu'on a refusés, puisqu'on travaille avec 50 personnes et 50 talents seulement. Parce que justement, il y a cette volonté de ne pas être une usine à saucisses de conférenciers. Et encore une fois, no offense aux agences, aux autres. Là, puis aux États-Unis, tu sais, tu vas sur les sites web, là, puis c'est comme... T'as 500 noms, puis c'est très overwhelming là, dans un sens. Puis nous, on veut pas ça. Donc,
connaissent même pas les gens qui sont dans l'écurie.
Moi, j'ai signé des conférenciers chez nous. Nous, on travaille de façon exclusive, là, super important. Quand on a signé de façon exclusive, je dis, mais par contre, t'es sur le site web de telle agence. C'est comme, je savais même pas. Donc, il y a des agences qui ajoutent des profils sur leur site web ou des conférenciers qui vont approcher des agences. Puis en fait, l'agence n'a aucun contrôle qualité du produit humain qu'elle va vendre, ce qui pour moi est une aberration totale. Et elle va ajouter un nom, tu vas demander une photo, une bio, puis tu vas être sur un site web, puis éventuellement, si on trouve de quoi, ben, tant mieux, puis on va prendre une cut là-dessus. Pour moi, ça fait aucun sens, puis c'est un peu tout ça que je trouvais mal fait, honnêtement, dans l'industrie. Et c'est ça qu'on essaie de transformer. Donc, on est vraiment dans une dynamique au niveau de la recherche de conférenciers, donc à plusieurs niveaux. Là. Comme je t'ai expliqué, au début, des gens qu'on connaissait. Après, ça a été vraiment de trouver le meilleur intervenant, le meilleur talent, pour répondre à des thématiques clés qu'on voit comme étant d'importance dans le marché par rapport à ce qu'on vit dans la société.
Tu sais, c'est un conférencier qui est sa tablette parce que tu ne sors pas, parce que tu n'as pas de demande.
Mais ça m'amène juste à dire aussi, parce que je suis dans cette industrie-là, ouais. Moi, je suis en train de faire mes fondations puis de me faire une tête sur l'industrie des conférenciers.
Tu vas devenir conférencière,
mais
toi.
Je le suis déjà.
Ben oui.
Je le suis déjà.
Mais je veux dire, quand je dis que tu vas devenir...
Ben, c'est un de mes souhaits, ouais. De pouvoir aller sur des plus grandes plateformes, des plus grandes audiences, puis vraiment communiquer un message qui est percutant. Puis un des éléments que j'observe, c'est qu'il y a beaucoup de personnalités publiques, que ce soit dans le domaine du cinéma, dans le domaine de l'animation et autres, qui sont sur les
athlètes olympiques.
Exactement, des gens qui, finalement, ben dans le fond, tous ceux qui ont une histoire à raconter ou qui ont des talents de communicateur. Puis quelqu'un qui, comme moi, qui a un parcours atypique, entrepreneur, devenu artiste peintre, passé de différentes industries, puis d'arriver à raconter une histoire avec un bagage qui est complètement, je dirais, différent, ou en tout cas dans la façon qui est apportée, bien souvent, en tout cas ma perception, c'est que les entreprises, quand ils veulent embaucher un conférencier, eux, ils ont une personnalité publique, puis c'est comme on va faire un show, là, tu sais, on va mettre une personnalité qui est connue, fait que là, les gens...
Ben oui.
Alors que là, ce que j'entends de toi, c'est avant de dire on va mettre la tête d'affiche de c'est quoi ton besoin, puis peut-être que j'ai un conférencier qui est peut-être pas connu, mais mon Dieu, que le livrable et la livraison et avec quoi tu vas repartir va être drôlement plus puissant.
100%. Mais puis je pense qu'il y a un mix, tu sais, dans le sens où même si on regarde notre catalogue aujourd'hui, tu sais, on va avoir des personnes qui sont comme des Olympiens. Bruny Surin, Jessica Arnois, qui sont très établies, qui n'ont pas attendu que ADN existe pour exister, tu sais, on va se le dire. Mais on a aussi des personnes, justement, qui ont des histoires intéressantes à raconter, mais qui n'ont pas été assez mises de l'avant. Ou que, tu sais, donc, on a vraiment un mix, en fait, entre des conférenciers excessivement établis, des conférenciers qui sont des communicateurs exceptionnels, mais qu'on n'avait pas encore assez mis sur des stages, puis qui ont des histoires incroyables à raconter, puis qu'on ne connaissait pas. Puis nous, on essaye d'avoir ce mix dans le produit des conférenciers qu'on représente, de différents... Parce que ça peut... Avoir un Olympien, puis une tête d'affiche, puis une star, ça peut répondre à 1500% à un de tes besoins. Si tu veux faire un événement, surtout, par exemple, pour des clientes, c'est dans certains cas. Bon, là, t'sais... Mais peut-être que pour venir parler de santé mentale, t'sais, à tes employés, est-ce que tu as besoin d'avoir... T'sais, l'histoire d'un Yann Martin, comme j'ai raconté, pour moi, elle a énormément de valeur, elle a beaucoup plus... Elle est super puissante. Fait que... L'important, je pense, c'est d'avoir un mix, de bien comprendre les besoins de ton marché, en fait, comme dans n'importe quel business, puis de venir, tu sais, nous, c'est un catalogue de 50 personnes, mais qui est constamment en évolution. Puis les gens avec qui on travaille moins bien, vu qu'on travaille en exclusivité, moi, je veux pas qu'on s'attache ensemble nécessairement. Donc là, on a sorti cette année certaines personnes du catalogue pour les laisser voler de leurs propres ailes et pour permettre à... On va annoncer, là, dans les prochaines semaines, comme une dizaine de nouveaux talents qui se joignent à nous pour répondre aux besoins du marché et pour répondre à ce qui manque dans notre catalogue actuellement, parce qu'on ne cannibalise pas non plus les contenus à l'intérieur de ce catalogue. Donc, c'est-à-dire que si tu veux parler d'une thématique en général, on va avoir la meilleure personne pour en parler, selon nous, qui sommes des experts en contenu. Puis c'est cette personne qu'on va te proposer. Donc, le catalogue, j'aime pas le mot catalogue parce qu'il est assez déshumanisant, mais il se forme comme ça. Puis,
Que c'est un catalogue.
Ah oui.
Ouais, mais tu sais, un catalogue,
c'est une offre de service.
C'est une offre de service dans laquelle tu peux choisir.
Je dirais notre famille. T'sais, tu disais comment vous choisissez les gens, puis tout ça. Puis je dirais plus que notre famille d'humains avec qui on travaille, on l'a choisi aussi à travers des valeurs qui sont des valeurs.
Mais vous connectez.
On m'avait posé
la
question là, mais tu sais, comme. Tu sais, qu'est-ce qui t'empêcherait de travailler avec quelqu'un? On ne travaille pas avec des cons, là, où on ne travaille pas avec des gens avec qui on n'a pas envie de travailler.
Ah, c'est ça.
Dans le sens où on veut partager des valeurs communes, on organise des événements où nos conférenciers se rencontrent, ils développent des relations d'affaires. Tu sais, on est vraiment dans cet esprit de famille.
Collégialité, familiale.
Moi, j'ai une question.
Vas-y.
Tantôt, tu as posé la question à Adrien, comment il va recruter un peu son équipe de conférenciers. Moi, je vais te poser la question, comment tu vas chercher tes clients?
Oui.
En fait,
on travaille, on a trois façons de travailler là. On travaille, les gens nous appellent du one-off là, puis ça, on va le faire. Mais aujourd'hui, en fait, on a vraiment la volonté d'aller créer des relations sur le long terme et de vendre un projet, puis dans lequel on va pouvoir positionner plein de conférenciers. Ah. Demain, tu m'appelles, tu veux un conférencier pour une conférence, on te le trouve. Mais en fait, aujourd'hui, beaucoup, on va aller travailler sur des deals, sur un événement. Donc, j'accompagne un client entre chef PME. En ce moment, on va travailler sur l'intégralité de leur programmation, trouver tous les conférenciers pour leur événement. Puis, on fait pareil sur des programmations annuelles avec les clients. Donc, on a beaucoup de récurrence quand tu parles de comment est-ce que tu vas trouver tes clients. Un client sur deux avec qui on travaille, on retravaille avec. Et donc là, il y a vraiment ce... Donc, on va chercher des clients comme ça. On va chercher des clients avec... des stratégies, je dirais, tu sais, aussi de bouche à oreille beaucoup, du AdWords, puis ça, la qualité, la qualité, la satisfaction amène d'autres projets. Mais je dirais principalement, vraiment, 50% de notre clientèle, c'est du recurring business. Des clients avec qui on travaille déjà. Puis ça, c'est vraiment. C'est ça. Ben, pas à l'année nécessairement, mais avec qui on a travaillé une fois. Et on va retravailler avec eux. Ouais.
La récurrence, c'est ça qui est difficile en entreprise, d'avoir.
C'est la clé du succès.
Ben, c'est comme mon grand-père, sais-tu qu'est-ce qu'il disait? Il disait, c'est bien facile de vendre. Qu'est-ce qui est difficile, c'est de revendre.
Oui.
Tu sais? Hey, Adrien Tombari, merci beaucoup.
Tombari, tu l'as dit comme ça?
Ben oui.
C'est bon, c'est parfait.
Tombari.
Puis comment on te trouve, Adrien, si on veut travailler avec ADN et ton équipe?
514-709-652. Non, vous m'appelez, vous allez sur notre site web, sur
adnconferencier.com.
Vous pouvez m'ajouter sur LinkedIn aussi.
On est live.
T'es timé.
sur LinkedIn, on est très actifs sur LinkedIn. Ouais. Fait que LinkedIn, site web, puis pour vrai, là, mon cell, encore une fois, là,
courriel. Tu es rejoignable.
Tout à fait. Je suis toujours là pour les besoins des clients.
Oui, parce que c'est pas un nom qui est commun, fait que c'est facile de trouver. Déjà que tu sois dans la grande famille, dans la jungle des affaires comme invité, parce que tu vas voir ta page sur notre site web. Mon équipe est déjà là-dessus. Alors, les boys sont déjà affairés à... Merci beaucoup, Caro.
Hey, ça a été un plaisir.
Ben oui.
J'ai adoré, puis une très belle rencontre.
T'es bonne à part de ça, des bonnes questions.
T'as trouvé une nouvelle conférencière?
Ben, pourquoi pas. En plus, une conférencière future, ben...
À suivre.
Mais c'est sûr que nous autres, on va suivre ça. Dans la jungle des affaires, ben oui, on le sait pas quand est-ce qu'on va revenir. Ben non, on le sait jamais. Mais chose est sûre, c'est qu'on a du fun.
Merci d'avoir écouté La Jungle des Affaires. Pour participer à l'émission, rendez-vous sur notre site web dans la jungle des affaires.ca. À très bientôt pour une prochaine entrevue.